Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre Radio Capi, votre magazine d'échange citoyen. Parole aux auditeurs que nous vous proposons en séjour. Le ministre de l'Environnement et Développement Durable, Claude Nyamugabo Bazibouye, a dans son discours à l'occasion de la COP25 à Madrid en Espagne plaidé pour voir la République démocratique du Congo bénéficier à juste titre des financements disponibles au niveau mondial. Ces financements devraient aller bien au-delà de 1% actuel et c'est là au regard de l'énorme contribution des forêts congolaises à la préservation de la planète. Que pensez-vous de ce plaidoyer? 0 81 890 49 69. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Nico Kalambay est à la réalisation, Piero et la Meiji, je vous le présente sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Comment la RDC peut-elle agir aujourd'hui d'une manière plus efficace dans la préservation de l'environnement, elle qui détient ces grands pourcentages de forêts? Le ministre a fait un plaidoyer à la COP25 estimant que le financement doit aller au-delà de 1% et que la RDC doit bénéficier de ces différents fonds pour lui permettre de pouvoir préserver sa forêt et jouer son rôle dans la protection de la planète. Comment y arriver? Vous êtes nombreux à avoir déposé votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs et en ligne. Jean-Dédier Minengou, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, la radio de la paix.
L'expert en environnement, conseiller du chef de l'État en matière environnementale. Alors, COP 25, il y a autant de COP, hein. D'autres fois la RDC a fait entendre sa voix, d'autres fois la RDC n'a pas fait entendre sa voix, mais cette fois-ci quand même le ministre de l'Environnement s'est exprimé. Comment d'abord, à la volée, jugez-vous ces plaidoyers du ministre de l'Environnement à cette COP 25?
Merci Pierrot pour la parole. D'abord, je vous félicite pour l'invitation. Vous venez de le dire qu'il y a eu plusieurs conférences de parties qui se sont tenues. Et je pense qu'à toutes ces conférences de parties, la République démocratique du Congo avait pris part et la voix du Congo a été aussi entendue. Ce n'est pas la première fois que le Congo lance un message à la communauté internationale pour obtenir des financements en vue de la préservation de ces immenses forêts et toutes ces ressources qui participent au bon équilibre climatique. Alors, je voudrais apporter quelques précisions par rapport à ce que dit. Quand on parle de la conférence de parties, d'où est venue cette idée? Donc, Pierrot, c'est depuis 1992 où nous pouvons dire l'humanité avait franchi un pas important en signant ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique lors de ce qu'on a appelé le sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Et après la signature de ce que nous avons appelé la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les États, les organisations de la société civile, les entreprises, les scientifiques et autres, avaient pris l'engagement de se retrouver chaque année pour réfléchir sur le climat, en ce qui concerne les dégâts, en ce qui concerne les défis, en ce qui concerne les solutions qu'il faut apporter, en ce qui concerne les dérèglements climatiques. C'est pourquoi vous avez constaté que la première conférence des parties avait lieu en Allemagne, à Berlin. C'était en 1995. Après, il y a une deuxième conférence qui s'était tenue en Suisse, à Genève. Et la troisième conférence de parties était très, très importante. C'est celle qui s'était tenue au musée de Tokyo. C'est de là qu'est sorti ce que tout le monde appelle le protocole de Tokyo, où les parties prenantes avaient pris l'engagement de limiter leurs émissions à effet de serre. Donc, toutes les autres conférences des partis qui se sont tenues, il n'y a que deux que j'estime qui ont été très, très importantes parce qu'il y a eu des engagements, il y a eu un accord. Vous avez le protocole de Kyoto en 1997, mais vous avez également l'accord finalement de Paris. Donc, ce sont les deux rencontres très, très importantes. Mais finalement, l'accord de Paris qui devrait entrer en vigueur déjà à partir de 2020, et il fallait que les États qui ont participé à la dernière conférence des partis ici devraient prendre les engagements pour aider surtout les pays qui n'ont pas suffisamment de moyens pour lutter et s'adapter au changement climatique, leur donner des ressources nécessaires pour que ces États participent aux efforts de la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre. Mais comme vous le savez, comme vous l'avez vu, cette conférence, ça c'est à mon avis personnel, s'est terminée en fait de façon chaotique parce qu'il n'y a pas un engagement clair, il n'y a pas un engagement chiffré de ce que nous appelons les pays de l'annexe 1 conformément au protocole de Kyoto, ce qu'on appelle les pays avancés, les pays développés qui devraient prendre des engagements pour aider, mais il n'y a pas eu d'engagement. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup de chefs d'État africains, vous avez vu même le président et la délégation brésilienne qui étaient très très déçus du comportement de ces qui ont joué un rôle extrêmement négatif par rapport au dérèglement climatique, de ne plus prendre les engagements fermes pour aider l'humanité à lutter contre le changement climatique. Alors, quelle est la leçon que peut-il tirer de toutes les conférences et des parties ou de tous les sommets qui se tiennent à travers l'humanité? Pierrot, il faut être courageux pour dire que dans ce genre de sommets, dans ce genre de rencontres, il n'y a pas vraiment de décisions importantes qui se prennent. Les seuls bénéficiaires de ces rencontres, à mon avis, ce sont les caméramens et ce sont les photographes. Parce que ce qui est important, ce sont les photos, ce sont les discours que les hommes politiques, les acteurs de la société civile, les scientifiques font. Mais au fond, il n'y a pas un engagement clair et qui a été déjà pris dans ce sens. Vous avez vu comment l'accord de Paris avait été salué par tout le monde, mais sur le terrain, cet accord a du mal à être appliqué sur le terrain. Je salue le discours que le ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo a tenu au niveau de la COP 25. Mais ce que nous, les Africains, de façon générale, les Congolais devons comprendre, c'est que si nous devons permettre aux communautés locales en République démocratique du Congo, aux communautés les plus vulnérables à s'adapter aux impacts du changement climatique, nous devons trouver nos propres moyens et nous devons les mettre à la disposition de la société pour que nous puissions lutter contre le changement climatique.
Mais alors, quand on regarde aujourd'hui, oui.
Mais je crois que c'est une perte de temps, à mon avis.
Oui. Alors, vous avez insisté que le Congo doit trouver des mécanismes. Mais est-ce que la RDC profite-t-elle aujourd'hui de certains financements, que ce soit pas d'une manière globale de la communauté nationale? Y a-t-il des pays aujourd'hui qui appuient la RDC dans cette question de préservation de forêts pour voir comment la RDC peut élever des capitaux propres qui doivent être donnés aux communautés locales, comme vous l'avez dit, pour jouer ce rôle important dans la préservation du climat?
Oui, bon, en fait, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'État ou il n'y a pas d'organisation internationale qui vienne en aide à la République démocratique du Congo de pouvoir préserver ces immenses ressources forestières en vue de lutter contre le changement climatique. Il y a eu CAFI, les accords avec des pays comme la Suède, la Norvège, vous avez des accords avec des pays comme la Hollande, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, beaucoup d'organisations internationales qui viennent en aide à la République démocratique du Congo. Je crois que c'est ce genre d'accord avec les États qui peut être important. Mais des conférences comme la COP, je reste convaincu qu'il n'y aura jamais de solution, il n'y aura jamais un engagement ferme des États à ce niveau-là pour pouvoir aider les pays africains à pouvoir s'adapter contre le changement climatique. Et là où il faut dire aussi, c'est que l'Afrique ne manque pas, Pierrot, des ressources nécessaires pour s'adapter au changement climatique. Nous avons des ressources nécessaires, mais ce qui est extrêmement éclairant, ce qui est très dangereux, ce qui est malheureux pour nous, les Africains, et plus particulièrement les Congolais, c'est que les ressources qui peuvent être destinées à la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire la pauvreté, si aujourd'hui les gens coupent les forêts, les gens vont aller construire dans des endroits où aujourd'hui il y a des érosions, il y a des inondations, c'est la pauvreté. Donc toutes ces ressources existent, mais ce qui pose problème ici chez nous en République démocratique, tout comme dans beaucoup de pays africains, ce sont des antivaleurs, des tares qui ont été érigées en valeur. La corruption, les détournements de fonds ne peuvent pas permettre à un État de pouvoir disponibiliser des moyens nécessaires pour permettre à sa population de pouvoir lutter contre
Merci.
La pauvreté et les inégalités en République.
Voilà. On va revenir à vous le temps d'écouter, oui. On va revenir à vous le temps d'écouter les auditeurs. Rappelons qu'il y a d'ailleurs la Cour de Paris a été fragilisée avec le retrait, les menaces du président américain Donald Trump, le retrait des sa signature, le menace, tout ça. Ça a carrément fragilisé l'accord de Paris, on s'y rappellera bien. On va revenir à vous, le temps d'écouter Olivier qui est à Kikut, Eli qui est en Bandaka. Olivier, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Merci Olivier d'être avec nous, vous êtes à Kikut, bonjour.
Oui Pierrot, bonjour et bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, Pierrot, c'est très très bien. Bon, personnellement, j'ai aussi salué la présence de la RDC, comme d'habitude. Mais je déplore une seule chose, c'est que on a l'impression que nous y allons en aventurier. Parce que, d'abord, on est allé, cela a été dénoncé par les médias, il n'y avait pas de préparation. Et le bureau officiel de la RDC est resté fermé pendant 7 jours environ. Alors que la COP avait déjà commencé. Alors, les gens qui avaient envie de savoir ce qui se passe à RDC ne savaient pas à qui s'adresser. Donc ça, c'est une première chose. Donc, on y va, mais en aventurier. Alors, deuxième chose, je crois que nous faisons une chose et son contraire à la fois. Nous demandons qu'on nous aide à protéger nos forêts, mais nous-mêmes, nous sommes incapables de les protéger. Vous savez que, depuis toujours, Global Witness, Greenpeace et beaucoup d'autres ONG déplore ce qui se passe en RDC. Et malheureusement, ce sont les officiels qui sont en première ligne dans ce désordre. Quand vous prenez la convention RED, c'est-à-dire la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, eh bien, nous sommes comme des gens qui ne sont pas concernés. Parce que nous sommes là, nous dégradons nos forêts tous les jours, et personne. Du côté officiel, on ne voit pas ce que fait le gouvernement. Ça, c'est aussi à dire. Alors, autre chose, Pierrot. Après la COP 21, la RDC a reçu de l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais fait le bilan. Les affectations de cet argent. Il était question qu'on puisse distribuer à des organisations qui permettraient de reboiser. Mais moi, je vous dis, cet argent est allé dans les poches des personnes, des individus qui ont prétendu avoir des organisations. Et ces individus, ce ne sont pas des citoyens ordinaires, ce sont des officiels. Alors, qu'est-ce que nous allons devenir demain? Parce que tout le monde est conscient que les forêts, ça protège l'humanité. Les forêts, ça protège l'univers. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous dégradons les forêts. Et aujourd'hui, quand vous allez à l'Équateur, quand vous allez dans toutes les forêts de la RDC, alors il est admis que nous avons la plus grande forêt humide en Afrique centrale. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, j'espère que maintenant, après la COP 25, et tout le monde le reconnaît, qui a été un échec, évidemment, qui a été un échec. Mais qu'est-ce que nous pesons dans cette histoire-là? Nous qui ne savons pas organiser nos forêts, qu'est-ce que nous pesons? C'est ça l'atteinte.
Et là, vous avez raison, Olivier, de dire que la RDC peut bien solliciter des fonds, mais il faut d'abord savoir localement, dans notre politique intérieure, qu'est-ce que nous faisons avec la protection de nos forêts. Rappelons que les arbres congolais abritent près de 8% du carbone forestier mondial. Et pour vous, il revient d'abord à la RDC de définir une politique claire de protection de ces forêts. Et à travers les concessions, par exemple, qui sont données. Et à partir de ces efforts, on peut voir comment solliciter, quand bien même on peut avoir des fonds venant de l'extérieur, mais si à l'intérieur, il n'y a pas des structures mieux outillées et bien identifiées pour pouvoir utiliser ces fonds, ça sera difficile. Oui, terminé par là, Olivier, vous voulez dire oui?
Oui, je voulais dire que nos partenaires aujourd'hui, ils ont peur. Vous savez, la bonne gouvernance, c'est quelque chose qui intervient dans tout. Alors, quand on sait que l'argent qui est donné est mal géré, ne profite pas à la population, vous savez que les donateurs ne sont pas chauds. Donc voilà, je terminerai par là.
Merci beaucoup. Il faut régler cette question de la bonne gouvernance. Eli, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Radio Kapi. Je salue la présence de votre invité. Et puis, je remercie d'abord la pertinence de son intervention. Je voudrais par ici marteler sur trois éléments importants. Notamment, je vais commencer par ce que nous appelons d'abord conférence internationale sur le climat, Parce qu'il y a, la problématique ici, l'information qui n'arrive pas jusqu'à la base, jusqu'à la communauté locale, parce que la plupart des citoyens n'arrivent pas à comprendre c'est quoi la conférence et quelle est son importance sur l'échiquier international. Et l'élément le plus important qu'a pensé est celui de savoir que lorsqu'il y a conférence internationale, moi, personnellement, je suppose qu'il y a une certaine faiblesse quant à nos autorités politico-administratives. Parce que lorsque vous regardez depuis 2015, quand il y a une conférence internationale sur le climat organisée par la France elle-même avait produit plus de 50 experts, 50 scientifiques qui vont démontrer, n'est-ce pas, la problématique du climat sur le plan international. La Chine avait envoyé plus de centaines d'experts. Les États-Unis aussi également avaient envoyé plus de 70 experts qui étaient venus rehausser la présence et démontrer en chiffres la problématique du changement climatique sur le plan mondial. Quelle est la conséquence de ces changements climatiques? Chaque expert venu des États avait contribué sur le plan scientifique. Ce n'est pas pour rien que dans ce cadre de la conférence internationale sur le climat, il y a ce que nous appelons, il y a un organe scientifique pour l'évaluation du changement climatique, qui est communément appelé le groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique. Cet organe est composé de scientifiques de différents États et gouvernements. Parmi les 195 États membres des Nations Unies, chaque État envoie ces scientifiques pour participer à cet organe scientifique afin de contribuer à l'évolution du changement climatique. Mais on dit que la RDC aujourd'hui, depuis même il y a eu plusieurs conférences, il n'y a pas de scientifiques congolais. Il n'y a aucun professeur d'université congolaise, aucun professeur environnementaliste qui prend part, n'est-ce pas, à cet organe pour évaluer la conséquence du changement climatique. Les apports scientifiques ne viennent que de la Chine, de la France, des États-Unis, ainsi que de l'Allemagne et tant d'autres pays européens, asiatiques. Mais la RDC elle-même, nous abritons, vous vous souvenez, 60% de la biodiversité. Nous sommes composés de beaucoup d'écosystèmes forestiers, de l'eau, ainsi de suite. Mais les scientifiques congolais, nous ne sommes même pas à la mesure de comprendre ce qui se passe dans notre propre pays en rapport avec la dimension écologique que nous avons. Aucun scientifique congolais ne mène des recherches sur ça. Ça, c'est le premier élément qui ne nous amène pas à avoir une certaine place sur la situation mondiale de notre climat. Un autre élément, c'est quoi? Il y a l'élément de l'information. Parce que lorsque vous faites des recherches et des enquêtes dans les communautés locales congolaises, la plupart des citoyens, à la base, ne comprennent même pas les problèmes du changement climatique. J'ai aimé quand Olivier a dit les problèmes des raids aujourd'hui, dans la plupart de nos forêts qui sont au village, toutes les forêts sont détruites parce que la population n'a pas reçu la véritable information sur la protection des environnements. Donc l'État congolais doit en tout cas procéder à une information, la sensibilisation jusqu'à la base pour que la communauté locale puisse bien renchérir les effets du changement climatique. Et je voudrais encore revenir, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'un mois que les gouverneurs des provinces du Grand Équateur, ils viennent de rehausser la présence au niveau des États-Unis d'Amérique pour des questions de carbone, le prix du carbone. Or, les gens avec qui ils sont partis représenter le Grand Équateur à cette assise aux États-Unis d'Amérique pour des questions liées au crédit carbone, aucun parmi ces gens n'était environnementaliste. Ce sont des grandes conséquences que nous devons faire attention. Sinon, nous risquerons d'avoir rien.
Élie, les exemples que vous avez donnés par rapport à... D'ailleurs, on a eu l'émission il y a quelques temps. Il y a eu des plaintes au niveau de cette question des délégations de congolaises dans des grandes conférences. On parlait bien sûr d'un déficit d'informations, qu'il y ait peu de gens d'ailleurs dans la délégation. Vous rappellerez que l'année passée, les gens avaient dénoncé le fait que dans la délégation de la RDC, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés à Paris, l'autre fois à Paris, mais malheureusement, ceux qui étaient partis comme environnementalistes étaient moins nombreux qui étaient dans la délégation. C'était juste ceux qui étaient partis pour se promener. Ça, c'est d'abord un fait. Et vous aurez aimé voir la RDC réfléchir avec ses spécialistes et accompagner souvent des spécialistes qui doivent émettre leur point de vue. Et d'un côté, vous estimez qu'il y a une cassure. Il n'y a pas l'information qui arrive au niveau des populations locales. Les grandes conférences qui se tiennent sur les climats, ce sont des penseurs qui décident et qui réfléchissent, mais les populations locales semblent ne pas être impliquées de fois dans les discussions ou dans les mesures qui sont prises sur la question de forêt qu'ils exploitent. Merci beaucoup, Elie Sylvain. Vous êtes à Bounia. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, cher.
On vous écoute, Sylvain.
Merci. Je commence d'abord à saluer mon estimé frère, Lilo Papa de Mandata. Et je dois lui rassurer que nous nous préparons très bien pour venir à Mandata en janvier 2020 pour la conférence qu'il nous organise. Alors, nous commençons par l'article 53 de notre constitution. Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations. Mais c'est un choix. Lorsque vous lisez cet article, il faut clairement comprendre que notre constitution elle-même oppose à un pays d'avoir une politique de gouvernance environnementale centrée sur les besoins du financement de son programme d'énergie.
Sylvain, là, on a des petits soucis. Sylvain, on a des petits soucis avec votre ligne. Vous sortez entrecoupé. Peut-être il y a aussi cette pluie à Kinshasa. Pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu? Des fois, la qualité PC s'améliore. Tout en intervenant, bien sûr, oui. Alors, oui, Sylvain, vous pouvez intervenir, oui.
D'accord. Alors, je disais ceci. Lorsque nous lisons notre constitution, dans son article 53, il est clairement stipulé que notre gouvernement elle-même doit avoir une politique de gouvernance environnementale. Et je l'ai toujours dit, c'est que notre pays va de compter sur les différentes conférences internationales en rapport avec la gouvernance environnementale mondiale. Il faut avoir tout ficelé la politique interne. Et comme il venait de le dire, même l'invité l'a si bien soulevé, il suffit de regarder le comportement des Congolais. Eh bien, il est en divorce avec les contraintes du gouvernement responsable de l'environnement. Je dois y rappeler les gens. Les différentes guerres qui débattent la RDC ne permettent pas que la RDC bénéficie, comme on le voit bien, des avantages que nous portons notre environnement. Souvenez-vous que la destruction.
Bon, en tout cas, Sylvain, dommage que votre ligne nous pose des petits soucis, hein. On ne sera pas plus loin. Vous avez évoqué tout à l'heure que la RDC doit avoir une politique adéquate sur la protection de l'environnement, mais d'autres éléments, on a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir les suivre. Dommage. Dommage, Sylvain. Peut-être on pourra vous recontacter. Louis, vous êtes à Kikuit. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Oui.
On vous écoute, oui, Louis.
Oui, je disais que la question devrait être posée à Monsieur le ministre de l'Environnement de savoir pourquoi la RDC ne bénéficie-t-elle pas de ce financement. La question devrait être posée au ministre. C'est pas à nous de dire que nous voilà, il y a mes gestions, c'est parce qu'il y a mes gestions. Et l'argent n'est pas donné parce qu'il y a mes gestions. Non, la question doit être posée à Monsieur le ministre. Pourquoi la RDC ne bénéficie pas grand-chose de ce financement? Et en outre, comment est-ce que le gouvernement congolais peut aller dire aux gens qui vivent de la forêt de la protéger alors qu'ils ne reçoivent rien en contrepartie pour leur survie? C'est vraiment impossible. Soit que quand le financement arrive, c'est viré dans des comptes privés. Non, c'est vraiment une chose qui n'est pas acceptable. En outre, la RDC, nous voyons les pays comme le Brésil, qui peut concurrencer la RDC en matière de forêts, bénéficier largement de ces financements. Mais pourquoi pas la RDC alors? Ça, le ministre doit nous répondre. En fait, ce qui est un peu louche ici, c'est quand la RDC veut exploiter ses richesses, tel que dans les parcs de Virunga, on nous dit que c'est un patrimoine de l'UNESCO et il faut les protéger. Tantôt, des tourbières à protéger à l'équateur, des forêts à protéger. Donc, protéger, en fin de compte, rien n'est donné en contrepartie à la RDC ou à sa population. Et la population continue à rester misérable. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, Louis. Et en fait, le ministre n'a pas dit que, on n'a pas dit que la RDC ne bénéficie pas des différents fonds. Si vous avez suivi Jean-Didier Minengou, notre invité, il a dit qu'il y a beaucoup de partenariats aujourd'hui, que ce soit avec la Banque mondiale, avec la BAD, avec la Suède, la Finlande, que ce soit avec les Pays-Bas et d'autres pays qui soutiennent la RDC. Mais le ministre faisait un plaidoyer pour qu'on aille au-delà de 1% actuel que la RDC bénéficie, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'investissements massif hein, pour permettre à la RDC de pouvoir protéger ses forêts, c'est ça. Mais vous avez posé un problème tout à l'heure en disant, mais si on considère par exemple que les parcs de Virunga, on ne peut pas y exploiter le pétrole, c'est un patrimoine mondial, pourquoi protéger les tourbières qui sont à l'équateur? On nous dit de ne pas exploiter, mais au même moment, nous ne pouvons pas avoir de gros moyens. Voilà un peu votre inquiétude et nous allons accorder la parole à notre invité d'un moment à l'autre. Hein. Il pourra éclairer l'opinion des uns et des autres. 081-890-041-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine.
Funky. Tout sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tout le lundi à 9h15 et 20h30, en rediffusion le mercredi à 13h30.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, professeur Jean-Didier Minengou. Vous avez suivi nos auditeurs. Ça y est, il se dégage une préoccupation d'abord. C'est la politique claire que la RTC doit définir en termes de protection de l'environnement. Ça, c'est un problème. Il y a aussi cette question des cassures, des communications entre les experts, ceux qui conçoivent, ainsi que les populations locales qui doivent bénéficier ou qui doivent être impliquées dans la question de protection des forêts, mais il y a aussi cette question de la RDC, de ces forêts, de tout ce qui est considéré comme patrimoine mondial aujourd'hui et l'inadéquation par rapport au fonds que la RDC doit percevoir pour protéger ces forêts si elle ne peut pas les exploiter comme elle entend aujourd'hui. Voilà un peu en résumé les quelques préoccupations de nos différents compatriotes et gens de Djeminingo.
Merci Pierrot pour la question. Je tiens à saluer d'abord tous les intervenants pour leurs préoccupations très très pertinentes. Et vous l'avez dit, tous sont revenus pratiquement sur la même chose. Et les politiques en matière de conservation de la nature, en matière de préservation de l'environnement, ils sont revenus sur l'impréparation à ce qui concerne les rencontres internationales. Et ça, je dois avouer clairement par rapport à ce que notre ami Olivier a dit, et ça, depuis très longtemps, lorsqu'il y a des rencontres internationales, et je partage votre point de vue, et le Congo n'avait pas ce temps de se préparer sérieusement pour amener des gens qu'il fallait. Moi, très récemment, et lorsque la COP avait commencé, j'ai rencontré des experts que je connais qui devraient se retrouver. Mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais je ne suis pas sur la liste, je ne sais pas me déplacer. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été organisé depuis, c'est devenu finalement une habitude pour les officiels. Quand il y a des rencontres internationales, au lieu d'amener des experts, les gens s'accompagnent des gens qui ne vont rien servir finalement. Vous avez vu même pendant la COP de Paris, vous avez vu que même pour la République démocratique du Congo, il y avait même des stands qui étaient vides. Et quand on attendait ceux qui devraient prendre la parole, il n'y avait finalement personne. Donc, c'est quelque chose qu'il faut changer et je crois qu'il y a un travail important qui est en train de se faire pour que les choses changent. Parce que vous avez suivi très récemment le président de la République qui a annoncé la création de ce que nous appelons l'Agence de transition écologique. Et je crois que c'est cette structure très, très importante qui va jouer un rôle capital pour que le potentiel environnemental de la République démocratique du Congo puisse jouer un rôle pour le développement socio-économique de notre pays. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que le président de la République, Félix Tshisekedi, fait de l'environnement l'une de ses priorités. Il a dit à plusieurs reprises
L'environnement doit nous servir au développement. L'environnement, tout ce que nous avons comme potentiel, doit nous aider à lutter contre le changement climatique, doit aider les communautés les plus fragiles à pouvoir s'adapter. Et c'est cette volonté politique qui est très importante. Et il y a un travail qui est en train de se faire. On ne se limite pas seulement au dire, mais le travail est en train de se faire. Comme je l'ai dit, il y aura une agence importante en République démocratique du Congo qui va nous amener, qui va gérer tout ce qu'il y a comme transition écologique en République démocratique du Congo. Donc ça, ce sont des habitudes qui se sont incrustées dans le comportement, dans la mentalité des gens depuis de longues années. Et ça va changer avec tout ce qu'il y a comme structure qu'on est en train de mettre en place pour que les choses aillent dans le bon sens. La question des experts qui devraient, je viens de répondre, c'est tout à fait normal, mais maintenant je crois que les choses vont changer. On ne doit plus accepter que lorsqu'il y a des rencontres internationales, on traite des questions énergétiques, on traite des questions d'environnement, on traite des questions par exemple des routes, qu'on amène par exemple des charpentiers pendant qu'on est en train de parler des routes, qu'on amène des médecins pendant qu'on est en train de parler des énergies, etc. Donc toute cette confusion, on va mettre fin, et le gouvernement et surtout le président de la République est très déterminé pour que les choses aillent dans le bon sens, dans le sens. Il y a notre ami Louis qui dit, bon voilà, l'argent, il y a les politiques qu'il faut mettre. Non, les politiques existent, les politiques ce sont les programmes de loi qui existent en République démocratique. Vous avez ce qu'on appelle le code forestier, vous avez ce qu'on appelle la loi sur la conservation de la nature. Donc, les politiques nationales existent en matière de conservation, en matière de forêts en République démocratique du Congo. Mais comme vous le savez, depuis de très longues années, nous étions entrés dans une phase où les lois ne servaient en rien en République démocratique du Congo. Donc, on vote des lois, mais personne ne fournissait le minimum d'efforts pour que ces lois, avec l'engagement des nouvelles autorités de la République démocratique du Congo, surtout du président de la République, je crois que les codes forestiers qui a été promulgué, la loi sur la conservation de la nature ne doit plus se retrouver dans les tiroirs. Ce sont des lois, ce sont des codes qui doivent absolument être appliqués sur les terrains. Il y a, vous avez déjà donné la réponse, nous n'avons pas dit que le Congo ne bénéficie pas des appuis pour pouvoir s'adapter ou pouvoir lutter contre le changement climatique. Il y a eu des appuis importants qui ont été amenés par des bailleurs bilatéraux et multilatéraux de la République démocratique du Congo. Ça nous a permis de réaliser beaucoup de choses sur le terrain. Mais aussi, comme le président l'avait dit lors de son discours, nous ne pouvons pas dire que tout ce que nous devons faire en République démocratique du Congo, il faut l'appui d'X, il faut l'appui d'Y. Non, nous avons des ressources nécessaires pour pouvoir nous adapter au changement climatique. Mais nous devons, comme le chef continue à dire, lutter contre la corruption qui constitue un fléau pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo, mais également un fléau qui empêche les communautés les plus vulnérables à s'adapter aux impacts du changement climatique. Avec cette pluie, tout le monde est convaincu, par exemple ici en République démocratique, surtout dans la ville de Kinshasa, que les variables climatiques ont beaucoup changé, surtout ce que nous appelons la précipitation. Aujourd'hui, nous avons des pluies qui deviennent de plus en plus intenses. Vous avez des pluies très violentes, avec des dégâts sur les érosions, sur les inondations, les routes qui se coupent, les maisons qui s'écroulent. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Alors, nous ne pouvons pas à chaque fois attendre que la Banque mondiale, les fonds monétaires et les autres nous donnent d'argent. Nous avons des ressources nécessaires pour nous adapter, mais il appartient également à ceux qui ont contribué de façon historique au dérèglement du climat de venir en aide à la République démocratique du Congo et à d'autres pays fragiles de pouvoir s'adapter aux impacts du changement climatique. Donc voilà, de façon simple, Pierrot, ce que je peux dire en rapport avec...
Oui, mais Jean de Dieu, si vous vous rappelez, il y a notre ami Louis qui s'inquiétait, par exemple, en ce qui concerne le patrimoine mondial. Il parlait du parc des Virunga, où on ne peut pas exploiter le pétrole, c'est un patrimoine mondial. Il parlait des tourbières qui sont à l'équateur, tout ça. Mais pour lui, il s'inquiétait, il dit, mais on nous dit de ne pas exploiter. Mais d'un côté, quelle doit être la compensation si on ne peut pas exploiter ces forêts, si on doit protéger là où se trouvent les tourbières? Il faut quand même qu'il y ait une compensation conséquente par rapport à ça.
Oui, mais oui, Pierrot, notre ami Louis a pleinement raison. Il faut on ne peut pas demander aux gens qui vivent de la forêt de ne plus entrer en forêt s'il n'y a pas d'activité alternative. Donc on ne peut pas demander aux gens d'aller faire telle activité si en contrepartie les gens ne gagnent rien. C'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis au niveau international, au niveau à l'interne, pour permettre aux communautés les plus vulnérables de s'adapter au changement climatique. Lui-même a donné déjà des réponses. qu'il y ait des programmes et des projets où l'argent a été mis, mais les gens en ont abusé, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils prennent l'argent de la République, ils construisent, vous voyez, des immeubles, c'est de la corruption pure et simple. Les immeubles que les gens ont construits depuis des années, des gens qui envoient de famille et tout le monde, c'est sur le dos de la misère du peuple. Donc, ce genre de pratiques que le chef de l'État est en train de faire, que nous, là, nous sommes en train de l'accompagner, que lui et toute la société devant accompagner le président. Si nous mettons fin à ces pratiques barbares et ces pratiques qui ont dévalisé la République démocratique du Congo, je crois que le peu de ressources qui seront disponibles pour pouvoir permettre aux gens de lutter contre la pauvreté, ça va arriver auprès des communautés locales. Et comme je l'ai dit au début, avec l'Agence de transition écologique en République démocratique du Congo, je reste convaincu que les choses vont aller dans la bonne direction.
Athanase, vous êtes à Calémie, vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour Athanase.
Bonjour monsieur.
On vous écoute.
Ok, je voulais un peu intervenir pour le discours qui a été tenu par le ministre de l'Environnement. Bien sûr, nous sommes d'accord. Le problème que nous sommes en train de découvrir hier, c'est que ce n'est pas, quand nous disons même que la communauté ne bénéficie pas, ce n'est pas l'erreur du ministre, ce n'est pas l'erreur du président, c'est l'erreur d'abord que nous sommes en train de trouver à nos délégués, les législateurs, les gens qui sont au niveau de l'Assemblée. Eux sont partis pour contrôler le gouvernement. Quand le ministre a dit, c'est-à-dire le Parlement a écouté, les parlementaires doivent maintenant faire des suivis. Maintenant, chez nous, au Congo, ce que nous trouvons comme contraire, c'est que nous qui avons envoyé ces gens-là, ces législateurs, nous trouvons que les législateurs abandonnent, ils font maintenant partie du gouvernement, ils sont comme des ministres pour ne plus parler, pour ne plus faire le contrôle de ce qu'on a dit, le contrôle du gouvernement. Parce que lui, le ministre de l'Environnement, c'est quelqu'un du gouvernement. Mais le mandataire ne fait absolument rien. C'est ce que nous sommes en train, quand vous trouvez les gens qui doutent que le Congo ne bénéficiera pas d'un petit rien parce qu'il n'y a pas de contrôle. Le ministre peut dire, l'argent, les aides peuvent venir, mais on ne saura pas, ce sont des richesses qui vont se volatiliser, parce qu'il n'y a pas de contrôle.
Et alors, Athanase, là, vous avez quand même insisté sur un élément important, le fonds, ça ne manque pas, même les initiatives au niveau interne du gouvernement, il faut qu'il y ait vraiment des contrôles. On sait que dans les domaines environnementaux, les domaines des forêts, c'est les domaines où on estime qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, que ce soit en termes d'investissement, en termes d'exploitation, mais il faut à un certain moment au niveau du Parlement qu'on ait le contrôle rigoureux dans le secteur de l'environnement pour savoir qu'est-ce qui s'y passe clairement. Merci beaucoup Athanase. Chico, vous êtes en Mbandaka, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Chico, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot.
On vous écoute.
Bon, en fait, nous avons un problème, surtout en matière de l'information, lié à la conservation auprès de notre communauté locale. Je vous dis, la plupart des décisions, d'ailleurs, élus locaux l'a souligné, la plupart des décisions prises par nos autorités, les informations n'arrivent pas auprès de la population locale. Les fonds, nous en avons, parce que nous avons les fonds forestiers national. En fait, dans les fonds forestiers national, l'exploitation forestière effectuée dans la RDC, la plupart, nous avons 50% qui entrent dans la caisse de l'État à travers les fonds forestiers nationaux. Et cet argent est destiné pour, en fait, reboiser nos forêts. La forêt, là où on avait coupé, il faut passer par les reboisements. Mais moi, je ne sais pas. Je salue d'abord le professeur. Le professeur dit que, en fait, comme ça, nous allons changer notre façon de gérer l'environnement pour lutter contre le changement climatique. Mais je me demande quand on va changer. Parce qu'en si longtemps qu'il parle aujourd'hui, il y a les exploitants forestiers qui coupent les bois et qui exploitent les bois. Mais on va changer quand? Quand on va changer? Moi, je ne sais pas s'il a les statistiques des forêts reboisées partant des sociétés exploitées. Les sociétés qui exploitent. Est-ce que le professeur a des statistiques que telle société, peut-être Sifosco, a exploité autant des étendues des forêts. Il a reboisé autant. Je ne sais pas, Thierry. Je ne sais pas.
Et c'est ça votre inquiétude. Vous dites pour vous, oui, pour vous, Chico. Chico, vous estimez que dans les domaines de l'exploitation forestière aujourd'hui, si est-ce qu'il y a des chiffres clairs pour savoir telle société à exploiter autant d'hectares de forêt aujourd'hui. Il y a eu, on a reboisé autant, parce qu'on a eu déjà plusieurs émissions où les auditeurs revenaient sur cette question des reboisements. Les sociétés nous disaient, eh, hey, ils payent la taxe au niveau du gouvernement, et c'est le gouvernement qui devait s'occuper du reboisement, parce qu'il y avait des revendications dans certaines provinces où les gens, même dans cette émission, expliquaient que non, voilà, il serait mieux que ces sociétés qui exploitent soient aussi impliquées dans les reboisements, et les sociétés disaient, non, voilà, et ils payent la taxe sur les reboisements, il revient au gouvernement de pouvoir le faire. C'est ça votre inquiétude, et vous ne voulez pas qu'on attende longtemps, comme l'invité l'a dit, bientôt ça va se faire, mais il faut qu'il y ait des actions maintenant pour qu'on voie qu'il y a des gens qui sont vraiment engagés sérieusement et le gouvernement a la volonté de pouvoir protéger ces forêts. Merci beaucoup, Chico. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Oui, bonjour, Pierrot, et bonjour aussi à l'invité, le professeur Jean Dédé Milengo.
On vous écoute, Jean-Claude.
Oui, Pierrot, laissez-moi d'abord vous dire que nous sommes tous sans ignorer que la situation environnementale est devenue une préoccupation majeure pour nous tous, choisir d'accompagner les membres de nos communautés respectives à la protection de l'environnement. Et en général aussi, et à la lutte contre les changements climatiques et ses coronaires. Mais qu'est-ce que moi je suis en train de constater ici chez nous au Maniema? Le Maniema fait partie du bassin du Congo. Mais fort malheureusement, le Maniema semble être oublié par nos autorités nationales. Je vais vous faire un exemple. Au Maniema, nous avons des tourbières ici. Mais personne n'en parle. On ne voit pas des gens comme à l'Équateur où les gens descendent de Tambourbatra pour aller chercher ou faire des investigations. Je voudrais aussi vous parler des parcs, de notre parc de Lomami. Aujourd'hui, il y a des dissensions parce que ces gens n'ont pas été sensibilisés. Il y a donc un travail à faire avec nous qui sommes considérés comme les organisations de la société civile qui œuvrent dans les domaines de l'environnement, avec l'État congolais. Nous devons être appuyés pour descendre là où il y a des tueries parce que ces gens ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Or, par exemple, ces parcs, c'est pour l'intérêt de la communauté. Mais il n'y a pas de mesures accompagnatrices, il n'y a pas de mesures alternatives avec cette population. Voilà pourquoi cette population est en train de voir tous ces gens qui descendent là comme des ennemis, Pierrot.
Mmh. Voilà, il doit y avoir des alternatives. Jean Dédé Milengo, professeur, vous avez suivi, il y a un autre ami qui parle de l'alternative. Mais Chico a posé un problème réel aujourd'hui. Mais est-ce que nous disposons des statistiques aujourd'hui pour savoir qu'il y a autant de sociétés qui exploitent les bois dans nos forêts, mais aussi par rapport au reboisement? Est-ce que le gouvernement dispose aujourd'hui des données qui peuvent permettre à la population de comprendre en autant d'années, autant d'hectares ont été exploités et voilà ce qui a été reboisé aujourd'hui, Jean Dédé Milengo?
Merci Pierrot pour la parole. Je tiens à féliciter encore une fois de plus les intervenants. Je partage leurs inquiétudes, mais je partage également leurs agacements. Quant aux statistiques, les statistiques existent, bien qu'il faut les actualiser. Je voudrais être beaucoup plus clair par rapport à ce que notre ami Chico venait de dire. Il a parlé d'une structure fondamentale en ce qui concerne la protection de la forêt ou le reboisement en République démocratique, ce qu'il a appelé le Fonds forestier national, le FFN. Je dois vous dire que dans le contexte actuel, le Fonds forestier national fonctionne comme une direction du ministère de l'Environnement. Alors qu'il y a un travail qui est en train de se faire entre le gouvernement et la présidence de la République pour que le Fonds forestier national puisse devenir un établissement public avec un conseil d'administration, un comité de gestion pour que cet établissement puisse jouer correctement le rôle que les gens attendent d'un établissement public en République démocratique. Donc ce travail est en train de se faire. Nous avions déjà fini. Et tout le travail a été fait au niveau du cabinet du président de la République. On va harmoniser avec le gouvernement pour que dans les jours qui viennent, le Fonds forestier national ne puisse plus fonctionner comme une direction du ministère de l'Environnement, mais comme un établissement public doté d'une personnalité juridique. C'est ça le travail qui est en train de faire. Donc là, il n'y aura plus beaucoup d'inquiétudes pour que l'argent qui va entrer dans le Fonds forestier national puisse servir au reboisement ou au niveau de... Parce que maintenant, dans ce contexte, c'est très difficile. Il y a beaucoup de choses qui n'est pas possible de pouvoir expliquer maintenant, de pouvoir avancer. Mais je crois que les jours qui vont venir, et je suis d'accord avec notre ami qui dit, mais à quand le changement? Mais il y a le travail qui se fait, parce qu'on ne peut pas dire tout ce qui est en train de se faire. Pour les fonds forestiers, il y a le travail qui est en train de se faire. L'agence de transfert écologique, d'ici là, ça sera mis en place, parce que beaucoup de gens nous disent, hein, Pierrot, il faut être clair, dit non, mais voilà, vous faites beaucoup de forums, vous mettez en place beaucoup de... Non, la réflexion doit précéder. Il faut des politiques, parce qu'on ne peut pas exécuter quelque chose sur le terrain si vous n'avez pas mis en place un programme, s'il n'y a pas une politique nationale en rapport avec le secteur. C'est ce travail que le cabinet du président de la République est en train de faire avec les membres du gouvernement pour que ce qui doit se faire demain en République démocratique du Congo cadre avec la politique nationale, avec un programme qui a été établi pour que nous soyons capables de pouvoir évaluer, suivre et voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a Jean-Claude qui dit, bon, voilà,
pour les parcs, la population n'a pas été, il n'y a pas un travail qui a été bien fait, il y a les tourbières, oui. En fait, je suis d'accord avec vous. Nous sommes en train de travailler, et les organisations de la société civile travaillent également, pour que les conflits qu'il y a entre les riverains des parcs nationaux et les gestionnaires des parcs puissent trouver des solutions de façon équitable. Il y aura même des travaux scientifiques qui vont se faire, et je crois que dans les jours à venir, vous avez vu, au mois de septembre, il y a eu des équipes qui sont passées à travers beaucoup de provinces de la République du Congo pour faire la restitution à ce qui concerne les parcs qui ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril. Il y a notre ami aussi qui a parlé de ça. Bon, voilà, il y a le pétrole dans les parcs. On nous dit, oui, mais c'est tout à fait normal. Il appartient à la République démocratique du Congo de faire un choix, soit entre l'exploitation du pétrole et la conservation de la biodiversité. Nous, nous avions déjà donné notre point de vue. À l'époque, c'était clair que la préservation de la biodiversité rapportera plus d'argent que l'exploitation, parce que l'exploitation du pétrole est limitée dans le temps. Mais la préservation de la biodiversité, lorsque le tourisme est très bien organisé, ça rapportera des millions, voire des milliards à la République démocratique du Congo. Vous avez les petits pays comme les Kenyans, mais qui encaissent des millions, voire même des milliards dans le secteur du tourisme. Donc, avec cette transformation sociétale qui est en train de se faire, je reste convaincu, Pierrot, et les Congolais doivent accepter que tout ce que nous avons comme potentiel environnemental, tout ce que nous avons comme parcs nationaux, tout ce que nous avons comme ressources, en tout cas, tout ça, ça va contribuer au développement socio-économique de notre pays.
On va écouter les deux derniers auditeurs, revenir à vous pour la conclusion. Laurent est ici à Kinshasa, Christian à Kinshasa aussi. Laurent, merci d'être avec nous en une minute et demie peut-être, hein, pour commentant vers la fin de cette émission. Laurent, on vous écoute.
Bon, en tout cas, moi, je peux vous dire ceci. Je ne peux pas comprendre à ce que lorsqu'un non-forêt veut protéger l'humanité et que nous soyons les derniers à avoir l'enveloppe sur la politique de protection du monde. Et tout ça, c'est souvent dit à quoi? C'est par le fait que chaque fois, quand il y a même des sommets au niveau international, s'il y a peut-être un Congolais qui n'est pas dans la vie politique, mais qui a des idées fondamentales pour la protection de la RDC, il propose à un ministère, vous verrez, au lieu qu'on le prenne même comme un expert qui doit accompagner un membre du ministère à ce sommet-là, non, on prend des amis et on les envoie, alors qu'ils n'ont pas même l'idée de ce qu'il y a comme système de défense de l'international par rapport à ce domaine-là précis. Et c'est comme ça, vous verrez, quand quelqu'un arrive là-bas, donc il ne sait pas récolter l'intérêt qu'il faut pour le pays. Hein? Je vous donne encore à titre d'exemple, en Égypte antique, vous verrez que quand Joseph a connu les rêves du roi, alors le roi Pharaon n'a pas regardé quelle est la nationalité de Joseph, mais il lui a dit, bon, comme tu me dis ça, prends alors la responsabilité politique. Et Joseph a travaillé avec les Égyptiens, et l'Égypte était devenue l'économie presque mondiale pendant cette période-là. C'est-à-dire quelqu'un qui a une bonne idée, ne regardez pas sa couleur politique ou quoi. Hein? C'est bien de prendre la personne qui a de bonnes idées pour lui donner la responsabilité. Il s'accompagne maintenant avec vos politiciens pour que les politiciens
voilà. comprennent aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que notre invité a dit tout à l'heure, il faut qu'on ait des experts, les gens qui réfléchissent plutôt que ceux qui vont pour des touristes. Mais quand il y a des rencontres internationales, Christian, on va terminer avec vous. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot et merci de la parole accordée. Je salue également l'invité.
Pierrot, on vous écoute,
oui. Dans notre pays, oui, les problèmes, ce n'est pas seulement les fonds, parce que je sais qu'une fois ces fonds seront alloués, les problèmes qui vont se poser, c'est les problèmes de la traçabilité de ces fonds. Parce que la RDC jusque-là a bénéficié de multiples financements, mais sauf que la traçabilité, la manière de faire, la manière dont ces fonds ont été utilisés ou orientés, elle pose toujours problème. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est d'interpeller la conscience des uns et des autres afin que ces fonds soient vraiment utilisés pour le besoin exprimé. Parce que si aujourd'hui ces fonds sont utilisés pour autre chose, eh bien, la RDC ne va pas gagner, même si nous continuons à protéger l'environnement, à protéger, à contribuer pour un environnement beaucoup plus sain, mais nous serons toujours des perdants parce que les fonds qui nous seront alloués seront peut-être déboursés pour autre chose. étant donné que jusque-là, le patriotisme, c'est vraiment les cadets des soucis des hommes politiques congolais. Mais nous osons croire que, finalement, la conscience nationale va primer et le meilleur sera au rendez-vous.
Merci beaucoup, Christian. La conscience nationale va primer. On revient à vous, professeur Jean-Dédier Minengou. On a suivi les uns et les autres. Vous l'avez dit, c'est une rencontre internationale. Deux fois, on n'a pas de résultats escomptés. Il faut quand même qu'on ait des politiques internes, vous l'avez dit, pour pouvoir aider les communautés locales. Qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive pour conclure cet échange?
Oui, merci Pierrot pour la parole. Une fois encore de plus, je remercie tous les intervenants. Ce qu'il faut retenir de cet échange que nous venons d'avoir eu, c'est que le changement climatique est une réalité irréversible. Nous vivons avec le climat qui est en train de se modifier. Il appartient à la République démocratique du Congo, à son gouvernement, aux organisations de la société civile, aux intellectuels, à tout le monde, de pouvoir contribuer aux efforts nationaux pour permettre aux communautés nationales de pouvoir s'adapter aux impacts du changement. Les politiques nationales en matière de lutte contre le changement climatique, les politiques nationales en matière d'environnement, de conservation de la nature, seront appliquées parce que cela va de l'engagement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui l'a dit. Le potentiel environnemental de notre pays pourra contribuer au développement socio-économique. Et pour que ce potentiel contribue au développement, nous avons intérêt, comme l'a dit l'intervenant, de changer le comportement, de changer la société. Nous devons accepter, comme l'a dit le président, de lutter contre la corruption. Parce que les gens peuvent mettre à notre disposition des moyens, ou l'État peut mettre à disposition des organisations ou du gouvernement des moyens nécessaires pour pouvoir lutter contre le changement. Mais si ces moyens n'arrivent pas auprès des bénéficiaires, nous n'obtiendrons aucun résultat. C'est ainsi que la lutte contre le changement, contre la corruption, la lutte contre tout ce qui a comme antivalet, tel que prôné par le chef de l'État, devrait être une lutte commune, une lutte collective. Parce que nous ne pouvons pas laisser ces grands. Qu'un seul individu combattre ces grands fléaux. La corruption hypothèque notre avenir. La corruption hypothèque l'avenir des enfants. La corruption hypothèque l'avenir de la République démocratique du Congo. Et elle nous empêche de contribuer aux efforts de la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques.
Et vous l'avez dit, oui.
Il y a une agence qui sera créée en République. Le président l'a annoncé, l'agence de transition écologique. Je crois que toutes les questions liées à l'environnement vont trouver des réponses là-bas. Il y a des lois et des politiques que nous sommes en. Il y a des structures qui vont se transformer demain. Le Fonds national forestier ne doit pas être une structure qui ne contribue pas effectivement au développement républicain. On voit quand même le Fonds national qui s'occupe des routes ici contribuer à la réhabilitation ou à la construction de nouvelles routes. Donc demain, nous voulons voir le Fonds forestier. Ça, c'est un engagement du président de la République. Cette structure contribue vraiment à la lutte contre le changement climatique en créant de nouvelles forêts ou en protégeant des forêts vierges. Voilà ce qu'il faut retenir de ce change que nous venons d'avoir.
Oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer aussi rapidement le regard, parce que le problème de la RTC, ce n'est pas le manque des structures, faudrait-il encore les créer, mais les redoter aussi des moyens et changer le regard pour rendre ces structures plus efficaces afin que la mission soit exactement accomplie?
Oui, Pierrot, pour que les gens changent de regard à notre endroit, nous n'allons pas demander aux gens, c'est le changement de notre comportement, notre façon de faire les choses sur le terrain. L'engagement du président de la République, sa manière de faire les choses, est en train de vraiment de changer la vision que les gens ont vis-à-vis du Congo.
Merci.
Il n'appartient pas qu'un individu change, mais il nous appartient, nous tous, collaborateurs du président de la République, de changer de comportement, de ne pas être impliqué dans la corruption, de ne pas être plongé dans des choses qui sont en train de salir notre image.
Merci.
C'est ça qu'il faut faire, pas seulement au niveau du cabinet, au niveau du gouvernement de la République, au niveau des organisations et de tout ce qui contribue au développement socio-économique de la République. Donc il faut un changement total de nous tous si nous voulons que les gens aient une bonne image de notre part.
Merci. Merci beaucoup, professeur Jean-Dédier Minengou, expert en environnement et conseiller environnement au cabinet du chef de l'État. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la mise en œuvre de ce magazine qui a été réalisé par Nico Kalambay. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Mes Paroles aux auditeurs aussi, c'est sur www.radiocapi.net et surtout, passez une agréable journée en compagnie des Radio Capi. Au revoir.